Prévoyant le coup, vous avez une copie de la présentation PowerPoint. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire. Je l'ai sur le... Alors oui, c'était déjà ouvert, je pense, dans le PowerPoint. Alors, merci de l'invitation d'abord. Et merci également de vous ouvrir à ce que le PISA peut avoir à offrir, de bon et parfois de moins bon. Je vais essayer d'être un peu balancé dans mes propos, mais comme je coordonne l'étude, c'est assez difficile pour moi de faire la promotion des aspects un peu plus problématiques ou questionnables de l'étude. Cela étant dit, je vais quand même soulever certains points qui méritent certainement réflexion. Donc, parler un peu de ce que je vais couvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir
changer t'as juste à me donner...
Merci. Un cue. Parfait. Alors, rapidement, un sommaire de ce qui a été mentionné auparavant. Donc, c'est une évaluation des connaissances et des compétences, des habiletés, des élèves de 15 ans en lecture, mathématiques et sciences. Je mets une parenthèse sur ces mots-là, lecture, mathématiques et sciences, mais la terminologie exacte, c'est qu'on parle de littératie, de culture mathématique et de culture scientifique. Il y a une nuance importante, comme il a été mentionné auparavant. C'est pas une connaissance c'est pas une évaluation de connaissances pures en maths ou en sciences, mais c'est l'utilisation de ces connaissances et compétences en vue de faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est devenir un citoyen éclairé et profitable à la société vers la fin de nos études obligatoires. On a choisi le groupe de 15 ans parce que dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est là où on peut aller le plus loin avant que la scolarité obligatoire se termine. Comme il a été mentionné, c'est mené sous l'égide de l'OCDE à tous les 3 ans. Toujours les 3 mêmes matières ou sujets de base, mathématiques, sciences et lecture, mais selon un cycle selon lequel un prend un peu plus d'importance dans l'évaluation. Donc, en 2009, qui était la deuxième fois où on évaluait la lecture ou la littératie, les résultats sont beaucoup plus détaillés dans ce domaine-là que dans les 2 autres domaines. Et à tous les 3 ans, on change de domaine principal. L'OCDE, au tout début, restreignait le PISA aux pays membres. Et on voit maintenant que de plus en plus de pays qui ne sont pas membres de l'OCDE y participent. Parce que selon eux, il y a quelque chose à en retirer. Tellement que pour la prochaine évaluation 2012, il y aura plus de pays non membres de l'OCDE que membres de l'OCDE qui vont participer au PISA. Il y en avait 65 au total. En 2009, on est rendu à environ, je pense, quelque chose comme 72 ou 75 possibles pour l'évaluation de 2012. L'évaluation du PISA est assortie de questionnaires pour les élèves qui participent et les directions d'école. Il n'y a pas de questionnaire auprès des enseignants. Raison assez simple, c'est que c'est basé sur un groupe âge et non sur un groupe classe. Donc, d'avoir un effet classe serait vraiment très difficile à départager, contrairement aux autres études dont on a parlé, le TIMSS, le PIRLS, qui, eux, sont basés sur des groupes classe. Alors, on peut beaucoup plus analyser l'effet classe dans ces autres études-là que le PISA. Puis, de toute façon, le PISA, ce n'est pas une de ses visées. On vise une accumulation de connaissances et compétences à partir de l'âge 0 jusqu'à l'âge de 15 ans, à l'école et à la maison, dans son domaine privé-public, si on peut le dire. Comme ça, donc, ce n'est pas relié à un programme d'études comme il a été mentionné auparavant. Au Canada, l'évaluation est une entreprise conjointe de 3 regroupements. Le CMEC, le Conseil de l'éducation, j'aimerais vous en parler pendant moins de demi-heure, mais je ne peux pas le faire. Mais notre rôle, c'est de coordonner des projets d'intérêt commun auprès des ministères provinciaux et territoriaux. Le PISA en est un, donc on nous demande de représenter les ministères de l'éducation, provinciaux et territoriaux dans certains dossiers d'intérêt. Le PISA en est un. Comme l'éducation est de juridiction exclusivement provinciale, ça ne pourrait pas se faire autrement. Les provinces y participent parce qu'elles veulent y participer et au Canada, il semble que l'ensemble des provinces veulent le faire. Les territoires ne sont pas encore, je pense, prêts à le faire, surtout pour des raisons de ressources humaines et probablement des raisons économiques aussi, parce que ça coûte des sous, mais aussi ça coûte du temps. Ça coûte de l'expertise que les territoires n'ont pas encore, mais je pense qu'éventuellement, ça va arriver. L'étude est menée par Statistique Canada, donc dans les classes où le PISA est administré, ce sont des gens de Statistique Canada qui vont administrer ce sondage-là, comme n'importe quelle étude de Statistique Canada. Évidemment, il y a des gens de l'école et de la classe, des classes qui sont là, ça ne se fait pas en isolation, mais c'est Statistique Canada qui l'administre. Et Ressources humaines, développement des compétences Canada, le gouvernement fédéral, est également un partenaire important, en fait tellement important que c'est eux qui fournissent le financement à l'étude. Eux en ont un intérêt vraiment indéniable parce que c'est une mesure de jusqu'à quel point nos élèves, après avoir passé après leur scolarité obligatoire, sont prêts à soit entrer dans le marché du travail ou poursuivre des études avancées. Donc, quand on parle de politique de capital humain, le gouvernement fédéral a certainement un intérêt marqué. Donc, c'est genre de projet où il y en a un peu pour tout le monde. Les ministères provinciaux ont quelque chose à en retirer. Statistique Canada comme une enquête nationale et Ressources humaines comme une mesure de fin de scolarité, début d'une autre étape dans la vie, si on pourrait dire. Échantillon canadien est un des plus grands parmi les pays qui participent au PISA. 22 000, 21 000 élèves y participent, contrairement à environ 5 000 dans les autres pays. La raison est assez simple, c'est que pour nous, les résultats canadiens auraient beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Ça nous pourrait faire un échantillonnage au niveau des provinces. Pour ce faire, il faut augmenter l'échantillon d'une façon appréciable. Donc, environ 23 000 élèves dans 1 000 écoles dans les 10 provinces participent au PISA. Les résultats aussi, de par la nature de l'enseignement obligatoire à travers le pays, sont ventilés selon les groupes linguistiques anglophones, francophones. Dans toutes les provinces, ce sont des entités qui sont assez différentes les unes des autres. Alors, il y a un intérêt de la part des provinces d'avoir des résultats ventilés anglophones, francophones. C'est une autre raison pour laquelle on augmente l'échantillon. Alors, cette partie-là, les 8 ou 10 prochaines acétates, je vais aller rapidement parce que vous les avez ici. C'est pas que c'est pas important ou que c'est pas intéressant, mais comme vous avez l'information ici, j'aimerais qu'on déborde un petit peu le cadre des résultats. Ce que vous voyez ici, c'est un sommaire de ce qu'il y a depuis 2000. Il y a une tendance vraiment très claire. Le Canada a des résultats solides dans un contexte mondial où... parmi les 60 quelques pays qui participent, il y en a beaucoup plus en dessous de nous autres qu'en haut de nous autres. Ce phénomène-là où on voit ici les pays ou économies, parce que maintenant on ne parle plus seulement de pays, mais également d'économies, comme la Chine Shanghai, et pas un pays comme tel, mais c'est une entité économique. Les pays ou les économies qui ont un rendement supérieur à ceux du Canada, qui ont un rendement égal à celui du Canada, et tous les autres ont un rendement donc statistiquement inférieur à celui du Canada. Parmi les provinces, il y a également des tendances. Les provinces Ontario, Québec, Colombie-Britannique, habituellement s'échangent la pôle, et l'Alberta, s'échangent la pôle selon l'année et la matière évaluée. Les autres provinces dans un milieu de peloton, les provinces maritimes assez souvent en queue de peloton au niveau pan-canadien. C'est un petit peu ce que vous voyez ici pour les résultats en lecture en 2009. Représentation graphique que vous avez dans le petit rapport que j'ai distribué ici, où on voit les provinces qui sont insérées parmi les 60 quelques pays participants. En mathématiques et en sciences, c'est un petit peu la même histoire, quoique la domination ou les résultats supérieurs du Canada sont un peu moins probants en mathématiques et en sciences qu'ils peuvent l'être en lecture. Il y a un peu plus de pays qui surpassent les résultats canadiens en mathématiques et en sciences qu'en lecture. C'est ce que vous voyez ici. Au niveau des provinces, comme je disais tout à l'heure, selon la matière évaluée, il y a une constante. Le Québec est parmi les provinces de tête, ou à toute fin pratique, a toujours dominé les classements PISA parmi les provinces, et certainement parmi si on considérait le Québec au même titre que les pays participants, serait parmi les 2, 3 ou 4 économies les plus performantes en mathématiques depuis les tout débuts. L'Alberta en sciences, également un peu la même chose. L'Ontario progresse d'une façon assez régulière où antérieurement, ils étaient à la moyenne canadienne. Tranquillement, ils ont tendance à augmenter les résultats pour, de temps en temps, être à un niveau supérieur à la moyenne canadienne. Je m'excuse de la représentation graphique, premièrement, parce qu'elle est en anglais. Et aussi parce qu'elle est très petite. Pour la prochaine. Encore. Voilà. OK. Ce que je veux démontrer ici, c'est probablement ce que M. Murdoch va. Ce sur lequel il va s'attarder un peu plus, c'est qu'une des grandes particularités des résultats PISA, depuis les tout débuts, mais ça a été également démontré en 2009, après le choc de beaucoup de pays participants de voir le Canada aussi bien se classer, parce que dans une perspective mondiale, les résultats canadiens étaient et sont encore une surprise. On ne s'attendait pas à voir les résultats canadiens aussi élevés qu'ils le sont. On a une quantité incroyable de délégations étrangères qui viennent nous voir, qui vont dans les provinces pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, parce que c'est un peu inattendu de la part de beaucoup de pays. Et une des autres particularités, en plus des résultats qui sont assez élevés, c'est le niveau d'équité par rapport à nos résultats. Il y a très, très peu de pays qui réussissent bien et qui ont ce qu'on pourrait dire une représentation équitable des résultats. Et équitable selon différents critères. Je suis certain que M. Murdoch va s'y attarder, mais ici, c'est la relation entre le niveau socio-économique et le rendement. Apparemment, comme on peut s'y attendre, c'est assez linéaire. Plus qu'on a d'argent, mieux on réussit. Par contre, il y a un certain groupe de pays où l'importance du niveau socio-économique est amoindrie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a nécessairement plus d'argent à l'intérieur du pays qu'on va mieux réussir dans les résultats du PISA. Et on voit dans le cadran inférieur droit les pays où il y a des résultats qui sont élevés, mais un impact moindre du niveau socio-économique qu'on pourrait s'y attendre étant donné leurs résultats. Il y a vraiment très peu de pays. La Finlande est reconnue, le Canada, la Corée, Chine, Hong Kong et la Chine Shanghai maintenant qui est un nouveau joueur. Parmi les pays qui ont vraiment cette définition de haut rendement, haute équité dans les résultats. Un autre aspect des résultats qui est assez intéressant, c'est une espèce de d'écrasement des résultats canadiens par rapport à beaucoup, beaucoup de pays, c'est-à-dire très peu d'élèves sous-performants par rapport à d'autres pays, comme si on prend par exemple la Chine. Une des raisons pour lesquelles ils ont des résultats très élevés, c'est qu'ils ont beaucoup d'élèves très, très performants. Mais ils ont aussi une certaine proportion d'élèves moins performants. Dans le cas du Canada, c'est un peu la même chose en Finlande. Il n'y a pas nécessairement énormément d'élèves très performants, mais il y a également peu d'élèves peu performants. Environ 10% de nos élèves sont considérés au niveau canadien, ça fluctue un peu selon la province, sont considérés à un niveau inférieur au niveau seuil de PISA par lequel on dit on commence à avoir des problèmes en lecture à partir du niveau 2, ben on a environ 10% dans certains pays, même performants, on parle de 15, 20, 25%. Dans les pays les moins performants, 80, 90% des élèves n'atteignent pas le niveau 2. À l'inverse, on a également une proportion intéressante, mais pas parmi les plus élevés, d'élèves très performants. Donc, il y a une espèce de culture, si on pourrait dire, au niveau pan-canadien, d'encourager des résultats élevé, mais pas nécessairement de rechercher la performance de haut niveau comparativement à d'autres pays. Donc, c'est, selon l'OCDE, un autre indice d'équité. Une autre particularité des résultats sur lesquels je ne m'attarde pas beaucoup, mais qui est importante dans le contexte canadien, c'est la différence de rendement selon les systèmes anglophones et francophones. D'une façon générale, c'est le PISA le confirme, mais les autres études, que ce soit internationales, que ce soit les autres études internationales ou même notre programme pan-canadien d'évaluation confirme, les élèves en milieu minoritaire réussissent moins bien que les élèves en milieu majoritaire au Canada, l'exception étant le Québec, où les deux systèmes, les anglophones et les francophones, réussissent à peu près également, peu importe l'évaluation, peu importe la matière. Il y a cette tendance-là qu'on voit ici. Il y a quand même des écarts assez importants entre les anglophones et les francophones dans les autres provinces. La même chose en mathématiques et en sciences. Les écarts peuvent fluctuer beaucoup. On parle de 64 points, par exemple, en Alberta, entre les anglophones et les francophones. Ça montre deux choses. C'est qu'il y a une différence de rendement, mais aussi que les anglophones réussissent d'une façon très, très, très solide par rapport aux autres provinces. Une autre particularité des résultats pan-canadiens, qui est la même chose un peu qui est observée maintenant en 2009 dans tous les pays, dans tous les 60-quelques pays, l'écart entre les sexes en lecture. Un écart qui est à peu de choses près la même chose que ce qu'on remarque dans la moyenne de l'OCDE. Trentaine de points ici. C'est un écart qui ne s'est pas rétréci ou élargi depuis 2000. Donc, la supériorité des filles en lecture reste la même chose. À peu près la même chose dans toutes les provinces au niveau canadien. C'est très petit, mais en fait, le message est assez simple ici. L'écart entre les sexes est beaucoup moindre en mathématiques et en sciences, et il est en faveur des garçons. Donc, les garçons réussissent un peu mieux que les filles en mathématiques et en sciences. Les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons en lecture. C'est constant dans toutes les études, constant au niveau national ou international, cette différence de rendement selon le sexe. On voit également des différences de rendement selon les provinces. Vous l'avez vu tout à l'heure avec ce graphique où on classait les provinces à l'intérieur des pays économie participants, mais on voit qu'il y a un écart entre les provinces. Il est quand même important au niveau canadien. Pas si important que ça au niveau mondial, parce que les provinces réussissent au niveau de l'OCDE au minimum et parmi les pays les plus performants au maximum. Il y a quand même une stabilité des résultats en fonction du temps. Certaines provinces ont tendance, depuis le début en 2000, à perdre des plumes, à avoir des résultats inférieurs. Aucune province n'a augmenté ses résultats. Au niveau pan-canadien, il y a une différence, mais elle n'est pas statistiquement significative encore. Je pense que c'est une question de temps avant que ça le devienne. Mais au niveau des provinces, il y a certainement certaines provinces qui obtiennent des résultats moins élevés comparé 2000 avec 2009. Merci. Prochaine, démontre la proportion. Une des explications pour laquelle, dans certaines provinces, il y a des différences de rendement entre 2000 et 2009, c'est la proportion d'élèves au niveau inférieur et surtout au niveau supérieur. Pas beaucoup de différence pour ce qui est des élèves au niveau inférieur. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est la proportion d'élèves qui a augmenté ou diminué, selon le cas, entre 2000 et 2009 en lecture. On voit que les provinces qui réussissent le moins bien dans le PISA ont une augmentation des élèves les moins performants, donc plus d'élèves ont moins bien réussi. Par contre, pas mal toutes les provinces ont moins d'élèves plus performants, donc il y a une tendance à un écrasement des résultats un peu plus au niveau canadien. Et ce que ça nous coûte, on pourrait dire, tranquillement, c'est une diminution des résultats canadiens parce que nos plus performants réussissent moins bien en fonction du temps. C'est un peu la même histoire en mathématiques et en sciences. Il y a un peu plus de stabilité en mathématiques. Par contre, au niveau provincial, il y a des diminutions, encore une fois, pas d'augmentation ou presque pas. Et dans le cas du Québec, vous voyez, il y en a une très légère, 5,37, 5,40, 5,43. Dans le cas des sciences, comme il y a seulement eu deux cycles jusqu'à maintenant où les sciences étaient mesurées en fonction du temps, il y a également une légère diminution, mais moins marquée, possiblement parce qu'il y a eu moins de temps entre les évaluations. Ça restera à voir, à confirmer avec les cycles subséquents. Quelques conclusions rapides des résultats. Rendement élevé, mais stable en lecture, en mathématiques et en sciences au niveau canadien. Une répartition équitable, et je suis certain que M. Murdoch va s'y attarder un peu plus tout à l'heure. Une variation des résultats entre les provinces en lecture, en mathématiques et en sciences. Variation qui est quand même appréciable dans certains cas. Un écart assez important en lecture, moins important en mathématiques et en sciences, mais qui est stable en fonction du temps, donc il n'y a pas eu de progrès ou on n'a pas perdu de plume à ce niveau-là. Et également un écart stable entre les systèmes scolaires majoritaires et minoritaires au niveau canadien. Si vous le voulez, quelques considérations techniques pour ceux et celles que ça intéresse. Je pense que c'est important de le voir dans cette perspective-là. On l'a mentionné tout à l'heure, le PISA, il n'y a aucun programme d'études. C'est un échantillon aléatoire d'élèves et d'écoles, donc ce n'est pas un recensement. On doit extrapoler les résultats de la population, tenir compte des écarts, des erreurs de mesure, etc., lorsqu'on fait nos analyses, nos comparaisons, etc. C'est une administration qui est très standardisée, très scriptée pour qu'elle puisse avoir lieu dans autant de pays. Les administrateurs, administratrices de tests doivent suivre un script à la lettre partout où c'est administré. Le temps est important et les élèves n'ont pas plus ou moins de temps. Les conditions d'administration sont très, très standardisées. Et une considération qui est très importante lorsqu'on regarde aux études comme le PISA, le PIRLS, le TIMSS, c'est des évaluations à faible ou à aucun enjeu pour l'élève. Autrement dit, ça ne compte pas. C'est un aspect important des résultats. Lorsqu'on présente ce genre de test-là à un jeune de 15 ans, la première chose qu'il demande, c'est « Est-ce que ça compte? » La réponse est non, ça ne compte pas. Alors, il faut garder ça en tête lorsqu'on regarde ce genre de résultats-là. C'est la même chose dans tous les pays.
Juste une technicalité, oui? Sur l'échantillon aléatoire, est-ce qu'il est une surreprésentation des provinces en fonction de la population?
Non. C'est ça. C'est double aléatoire au niveau des écoles, au niveau des élèves, pour avoir des écarts de mesure qui sont à peu près, des erreurs de mesure qui sont équivalentes entre les provinces. Au niveau statistique, peu importe la taille de la population, après un certain nombre de personnes dans la population, environ 1000 au niveau du PISA va nous donner un écart à peu près équivalent dans toutes les provinces. Autre considération à garder au... Les liens entre les questionnaires des élèves et les directions d'école et le rendement. Dans le rapport que j'ai ici, et vous en avez un sommaire que j'ai distribué, j'ai quelques copies ici à laisser. Les résultats, c'était vraiment ce qu'on appelle les résultats globaux en lecture, mathématiques et sciences. Et on ne s'attardait pas aux relations entre les réponses au questionnaire et le rendement, qui, de mon point de vue, est beaucoup plus riche, beaucoup plus signifiante au niveau éducatif. Il y a beaucoup plus à en retirer. Il y a un rapport sur lequel on était en train de trimer avec Statistique Canada et Ressources humaines pour faire le lien entre ces questionnaires-là et le rendement. Et il devrait être prêt au cours des prochains mois. Mais je vous donne un aperçu rapide, personne d'autre au pays l'a vu. Mais on verra encore une fois qu'il y a une plus faible variation entre les écoles au Canada que dans la plupart des pays de l'OCDE. C'est une caractéristique importante. Lorsqu'on essaie de voir où est cette variation-là dans les résultats du PISA, dans certains pays, dans beaucoup de pays, c'est qu'il y a une grande différence entre les écoles. L'école où vous allez aller va déterminer souvent le résultat que vous allez avoir à une étude comme le PISA. Au Canada, l'impact de la différence entre les écoles est beaucoup, beaucoup moins grand. C'est une des plus faibles des pays participants. Une autre chose que vous allez remarquer dans les résultats pan-canadiens quand ils seront publiés dans quelques mois, c'est la différence ou le manque de différence, c'est probablement une bonne nouvelle, de rendement entre les élèves immigrants et ceux qui sont non-immigrants au Canada. C'est également une rareté. Il y a seulement Israël dans les 60-quelques pays qui a des résultats comparables aux nôtres, où les élèves immigrants réussissent aussi bien que les élèves canadiens, que ce soit les immigrants de première ou de deuxième génération. Il y a quelques différences au niveau des provinces, mais au niveau canadien, c'est une constante dans le PISA depuis le tout début. Les élèves immigrants réussissent aussi bien que les non-immigrants. Une autre chose qu'on va souligner dans le rapport à venir, c'est que le niveau socio-économique des élèves canadiens, bien qu'il soit plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, on peut certainement s'en rendre compte, l'impact sur le rendement est encore faible, plus faible que dans beaucoup d'autres pays. Le graphique avec les quatre cadrans et où le Canada était dans le cadran supérieur droit est un exemple. Il va y avoir des analyses au niveau des provinces où vous allez voir qu'il y a quelques différences au niveau des provinces, mais d'une façon globale, les provinces se situent également toutes dans ce cadran supérieure-là, avec grande équité au résultat. Étant donné que la lecture était l'aspect principal du PISA en 2009, on va creuser un peu plus les résultats en lecture. Une des choses qu'on va remarquer, souvent on dit au niveau des éducateurs, c'est une vérité, de la palisse, on n'a pas besoin de se le faire dire, pas besoin de dépenser des millions comme ça pour se le faire dire par une étude comme le PISA, mais je pense qu'on a des données fortes qui confirme que l'intérêt envers la lecture et la pratique de la lecture pour le plaisir ont une corrélation assez importante sur les résultats en lecture. C'est, que ce soit au Canada ou au niveau international, mais certainement au niveau canadien, les élèves qui réussissent le mieux sont ceux qui lisent le plus pour le plaisir. De façon intéressante, c'est qu'on va remarquer aussi qu'il y a un retour sur l'investissement qui arrête à un moment donné. C'est pas si on lit plus de 4 heures par jour, par exemple, parce qu'il y en a qui le font, notre rendement va diminuer à un moment donné, parce qu'on ne fait que ça. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas une relation linéaire à l'infini. ce genre de choses-là est intéressante à creuser dans le cadre du PISA. Donc, ce genre de résultat-là est à venir dans le rapport contextuel qui sera publié en mars ou en avril. Vous le verrez sur le site du CMSC. Quelques ressources qui pourraient vous intéresser. Donc, le site de l'OCDE, le site du CMSC où vous trouverez toute la documentation pertinente, le site PISA du gouvernement du Canada. Questions ou commentaires, je vous invite à m'envoyer un courriel, ça me fera plus que plaisir, au cmec.ca. Merci.